Donc, mesdames, messieurs, bienvenue à cette table ronde qui a pour titre « Les relations sont complexes entre les événements historiques et l'évolution des idées » autour de Gilles Dostaler. Donc, c'est un hommage que nous allons chercher, nous, historiens et historiennes, donc à rendre à un économiste. Donc, c'est déjà ici une démarche qui est en soi fort intéressante. Mais en même temps, bon, on a un petit peu l'excuse que l'économiste en question est lui aussi historien de sa propre discipline. Il s'est quand même passionné d'abord pour Karl Marx, pour Hayek et surtout pour John Maynard Keynes. Et avec Keynes aussi, donc, pour Freud. Et de ce côté-là, c'est quand même quelqu'un qui donc a énormément réfléchi sur la pensée économique. C'est aussi quelqu'un qui avait une culture économique absolument remarquable, impressionnante, et qui en même temps aussi, quand on le lit, a toujours quand même fait l'effort de demeurer très abordable. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant également pour nous. Et donc, entre notre discipline en tant qu'historien, et la discipline des économistes. Donc, c'est un dialogue, si je peux dire, que nous lançons, parce que c'est les deux disciplines, tout récemment, pour plusieurs raisons, ont eu tendance donc, à prendre des tendances de plus en plus divergentes. Et donc, je pense qu'il est temps là, qu'on relance un dialogue qui m'apparaît essentiel. Et nous allons profiter, effectivement, de cette commémoration quand même d'un grand économiste québécois pour effectivement donc lancer ce dialogue. Alors, je vais vous présenter donc les personnes qui vont parler, donc de gauche à droite. Vous voyez plus le fait d'un gaucher que d'un idéologue. Alors, à ma gauche, donc, M. Martin Paquette de l'Université Laval. Ensuite, M. Martin Petitclerc, donc, de l'UQAM, c'est ça?
Ah,
c'est exactement ça. Et puis, M. Robert Sweeney, donc, de l'Université Mémoriale de Terre-Neuve. Et dans l'ordre, je crois, donc, je vais vous laisser parler, chacun. Et donc, immédiatement, donc, M. Martin Paquette.
On parle d'économie, mais on parle d'ordre, c'est intéressant.
C'est bien.
Apprécier Gilles Dostaler, c'est le titre de cette présentation. Et je vais parler justement de ce qu'on entend par apprécier. Le verbe apprécier renvoie à deux significations qui tombent sur le sens commun. Soit, d'une part, celui de juger bon, d'aimer. Puis, d'autre part, celui d'en estimer le prix, la valeur d'une chose, d'une idée, d'un phénomène. Le verbe apprécier découle donc du jugement qu'on en pose, un jugement qui peut être subjectif, qui se fonde sur nos valeurs, nos représentations de soi et du monde, nos croyances. Un jugement aussi qui peut se vouloir objectif, fondé au préalable par la prise en compte de variables empiriques comme critères d'évaluation d'un objet, afin d'estimer justement l'importance et la portée. Étant historien de la culture politique, l'appréciation de Gilles Dostaler se fonde essentiellement sur mon expérience de lecteur, un lecteur de son œuvre, surtout en histoire de la pensée économique. Je pense entre autres ici à sa biographie de Keynes, « Keynes et ses combats » paru chez Albin Michel en 2005, à son « Libéralisme de Hayek » aux éditions de la Découverte en 2001, ou à ses travaux en collaboration avec Michel Beau, « La pensée économique depuis Keynes et historique et dictionnaire des principaux auteurs » en 1993, ou son tout dernier livre avec Bernard Maris, Capitaliste et pulsion de mort, en 2009. Comme lecteur, je veux donc apprécier ses analyses et ses études à différents titres qui sont interreliés. Sur un plan, d'abord, subjectif. Je ne l'ai pas connu personnellement, n'ayant pas été un de ses étudiants ou un de ses collègues. Néanmoins, Gilles Dostaler appartient à mon réseau de compagnonnage intellectuel et livresque, à ces réseaux d'auteurs qui, par les problèmes épistémologiques qu'ils soulèvent, par les approches qu'il privilégie, par les ressources conceptuelles et empiriques qu'il mobilise, par la solidité de leur argumentation, leur esprit de nuance et leur capacité d'évocation, par leur profond respect à l'endroit de leur objet d'étude, un respect qui n'exclut pas l'esprit critique et récuse le sophisme, parce que ce respect se fonde sur une éthique, par leur sens d'une œuvre cohérente qui répond à des attentes sociales, eh bien, ces éléments me rejoignent sur le plan de mes valeurs comme historien. Historien, mais aussi citoyen et être humain. Donc, il y a donc un rapport de connivence entre l'œuvre scientifique de Clyde Dostaler et mes affinités électives, pour reprendre ici le terme de Goethe. Mon appréciation se fonde en premier lieu sur le système de valeurs découlant mon expérience de lecteur et ma pratique du métier d'historien, un système subjectif de valeurs. Toutefois, vous l'avez peut-être remarqué, il indique un ensemble de critères à l'appui de mon appréciation. Pierre Bourdieu dirait ici que j'optimise ma subjectivité. L'appréciation devient ici plus objective, puisqu'elle cherche à estimer l'importance et la portée de l'œuvre de Dostaler, surtout celle qui m'est la plus familière, ses travaux en pensée économique. Je soulignerai ici trois critères d'appréciation. Le premier relève aux problèmes épistémologiques relatifs aux approches privilégiées. Le second concerne la construction de la preuve avec la mobilisation des ressources conceptuelles et empiriques. Et le dernier, qui est à mes yeux particulièrement important, ce sont les finalités éthiques et politiques de son œuvre. D'abord, les approches privilégiées. Depuis les travaux de Kenneth Galbraith, je pense entre autres à son temps des incertitudes, rares sont les économistes qui se sont intéressés à l'histoire de leur discipline. Plusieurs raisons militent en faveur de cet état de fait. Une des plus importantes est l'orientation nomothétique, qui font des lois, des sciences économiques. Les sciences économiques, on le sait, cherchent à valider des modèles qui établiront des lois régissant les comportements humains en matière d'échange. Ou pour reprendre ici la définition classique de Raymond Barre, de l'aménagement des ressources rares. Les lois de l'économie peuvent donc découler d'une approche hypothético-déductive, évaluant l'action rationnelle des agents économiques, ou être fondée sur une approche inductive tirée de l'observation et de l'expérimentation des dix phénomènes. Cette orientation nomothétique a un ascendant considérable dans la discipline, comme le montre le recours à la mathématisation ou à la modélisation fondée sur la sélection d'un nombre limité de variables microéconomiques ou d'indicateurs macroéconomiques, ou encore par la sanction sociale accordée à cette orientation. Je donne par exemple le COT, qui est bien connu des prix de la Banque de Suède en sciences économiques, en mémoire d'Alfred Nobel, abusivement appelé prix Nobel d'économie, en sont des exemples probants de cette orientation nomothétique. Dans ce contexte intradisciplinaire, l'histoire de la pensée économique, telle que conçue par Clyde Dostaler, détonne fortement. D'abord par son objet, en cernant les mutations de la discipline depuis les orientations depuis ses fondations conceptuelles, elle ajoute une analyse d'une variable complexe qui ne peut être facilement contrôlée, soit celle des régimes de temporalité. Ensuite, par son approche subjectiviste d'histoire de la pensée, telle que Dostaler le montre dans sa biographie de Keynes ou dans son étude sur le libéralisme de Hayek, les idées économiques ne sont pas des entités dégagées de leur contexte socio-économique. Elles ne se cantonnent pas aux seules relations dialectiques les unes avec les autres, ou comme le postule, entre autres, l'approche internaliste en histoire des idées. Ces idées économiques sont produites par des sujets historiques, et leur compréhension ne peut être complète sans une saisie de l'ensemble des contextes d'énonciation, comme dirait ici John Pocock ou Kenton Skinner. Des contextes d'énonciation qui peuvent être familiaux, sociaux, psychologiques, politiques, institutionnels, artistique, philosophique et bien sûr économique. La magistrale biographie de Keynes et ses combats, qui s'appuie sur un inventaire riche de sources variées, ainsi que sur une analyse éclairante des déterminants de la pensée de l'économiste britannique, la morale, la connaissance, le politique, la guerre et la paix, l'argent, l'intérêt, l'or, l'art, est une pièce à verser à ce dossier. Enfin, l'œuvre de Gilles Dostaler ne se démarque des praticiens des sciences économiques par l'emploi d'autres méthodes dans le traitement analytique du réel économique, à l'instar de l'herméneutique freudienne qui est au cœur de l'un de ses derniers livres, Capitaliste et Pulsion de mort. On comprend dès lors la position quelque peu excentrée de Gilles Dostaler dans la discipline de l'économie, mais aussi son rapprochement avec la discipline historique, une discipline, comme vous le savez, qui est fondée sur l'interprétation des traces du passé, par la place accordée au sujet dans le processus historique et par la saisie des temporalités. Ici rentre en compte le deuxième critère d'appréciation de son œuvre, celui de la construction de la preuve. Là, malgré l'importance de l'œuvre, les historiens se font un peu, à mon image, tour d'oreille. Sur un plan empirique, les historiens et les historiennes peuvent acquiescer à la solidité de l'argumentaire et à son potentiel heuristique. C'est là, je pense, le succès de certaines pages de son Keynes et du Dictionnaire de la pensée économique. Ils sont plus dépourvus pour en jauger l'apport conceptuel. Encore ici, plusieurs éléments peuvent militer enfin pour justifier cette méconnaissance actuelle des concepts économiques par les historiens. Je souligne entre autres le déclin d'une formation fondamentale en sciences économiques, un désengagement devant la présence vociférante dans l'espace public d'idéologues qui obscurcissent et dénaturent les enjeux économiques, une préférence certaine à l'endroit de l'interprétation par inférence au lieu de l'explication déductive, une méfiance devant l'esprit de système, l'ordre spontané ou le marché selon Hayek, par exemple, ou encore la théorie générale de Keynes, un certain sentiment d'indignité entretenu envers une discipline se voulant plus « scientifique », entre guillemets, grâce à son usage des mathématiques et de la modélisation, ainsi que sa valorisation, parfois à outrance, de la rationalité. Et pourtant, par leur érudition, les travaux de Gilles d'Ostalaire offrent des appâts aux historiens et aux historiennes, comme en témoignent par exemple les références dans « Capitalisme et pulsion de mort » aux études classiques de Fernand Braudel, David Landes ou Paul Bayrock. L'historien du culturel peut aussi agréer à ses analyses sur Keynes où il élabore brillamment sur l'argent dans sa dimension psychologique et sur la monnaie comme institution sociale. Toutefois, dans le cas entre autres de Capitalisme et pulsion de mort, ce seront les références à la psychanalyse freudienne qui peuvent parfois agacer les historiens, qui sont peu sympathiques entre autres à la psychohistoire, ramenée souvent à une histoire psychologisante. Dernier critère d'appréciation, et selon moi, qui, comme je vous le disais, ce n'est pas le moindre, celui des finalités éthiques et politiques. L'économie, comme l'histoire, partage des liens avec la philosophie politique. Dans le cas d'économie, cette discipline, ce domaine du savoir, pour reprendre l'expression de d'Ostalaire, ce domaine du savoir dans lequel se heurtent différents paradigmes, c'est-à-dire des façons très différentes de voir les choses, justement, est un enjeu social considérable, notamment en ce qui concerne la répartition des ressources dans la cité. Ici, l'œuvre de Gilles d'Ostalaire relève d'une éthique de la responsabilité à l'endroit de ses concitoyens. Par sa profonde sensibilité aux incidences politiques et sociales de la pensée économique, elle reflète ici le propos de Friedrich Hayek, justement, pour qui, ouvrez les guillemets, un économiste qui n'est qu'économiste devient nuisible et peut constituer un véritable danger. Fin de citation. Toutefois, il y a plus encore. Elle renvoie à une exigence kantienne ici, du respect des êtres humains, une exigence dans laquelle l'historien et l'historienne de métier est rompu. J'en donne ici un exemple éloquent de cette exigence kantienne tirée de ses écrits. Dans son Hayek, esquisse de biographie, d'Ostalaire note au sujet de ce penseur controversé et fort éloigné de ses affinités économiques. Il va le faire ici la lecture de son propos. Ouvrez les guillemets. Il faut lire Hayek, que l'on soit ou non d'accord avec ses propos, à cause de l'importance et de l'influence de sa pensée d'abord, mais aussi parce que cela constitue en soi une expérience intellectuelle enrichissante. Quel que soit le degré de notre désaccord avec une pensée qui, à plus d'un égard, heurte certaines de nos convictions les plus profondes, on doit reconnaître à Hayek une grande rigueur, une immense érudition, une honnêteté intellectuelle peu commune. Il est rare, en effet, de voir un auteur s'appliquer aussi systématiquement que lui à retracer toutes les expressions précédentes des pensées, des idées qu'il aimait, à chercher constamment à montrer qu'il n'est pas le premier à avoir avancé telle ou telle proposition. Friedrich Hayek applique ainsi à lui-même la règle de l'humilité de la raison. C'est peut-être là l'enseignement le plus utile de son œuvre. Fin de citation. L'humilité de la raison. Tel peut être l'enseignement que l'historien que je suis tire de la lecture de Gilles d'Ostalaire. Dans ce dialogue inachevé puisqu'inachevable, l'appréciation subjective rejoint ici l'appréciation objective. L'estime se marie avec l'estimation. Un seul regret, maintenant, Gilles d'Ostalaire n'est plus là pour recevoir le témoignage de cette double appréciation, sinon par le respect et la mémoire de cette lecture. Je vous remercie.
Merci, Martin. Martin.
Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais affirmer que je suis très heureux d'être ici. Je remercie les organisateurs de la table ronde, mes deux voisins, de m'avoir invité, même si, je n'ai pas connu personnellement Gilles de Salaire, et je ne suis pas non plus, peut-être le plus familier de son œuvre. Mais néanmoins, Dostaler m'a beaucoup inspiré. En plus, regretté collègue de l'UQAM, son ombre plane toujours sur mon institution. Et je trouve que Dostaler a bien représenté un peu ce que je crois être un esprit vraiment représentatif de l'UQAM. J'ai été invité ici pour donner suite à un article que j'ai publié l'année dernière dans la RAF, ou c'était peut-être il y a 2 ans, je ne sais plus, au sujet du projet d'une histoire sociale critique qui accorderait une place importante à l'étude de l'économie. Comme je le soulignais dans mon article, il me semblait que si l'histoire sociale, qui a toujours prétendu avoir quelque chose à dire non seulement sur le passé, mais sur le présent et l'avenir, si cette histoire-là désirait réaffirmer sa pertinence sociale, et Dieu sait qu'aujourd'hui, depuis une semaine ou deux, sa pertinence sociale est férocement contestée, si elle voulait réaffirmer sa pertinence sociale, elle devrait nécessairement s'intéresser à l'économie, en plus peut-être de faire des biographies politiques. Or, il se trouve que, encore une fois, mon regretté collègue de l'UQAM, Gilles Dostaler, un économiste passionné par l'histoire des idées, était l'un des rares chercheurs à réfléchir d'un point de vue critique à l'économie actuelle en s'appuyant sur une perspective historique. C'est parce que Dostaler représente bien une certaine tradition de pensée critique au Québec que je suis si heureux aujourd'hui d'être ici avec vous. Même si, encore une fois, et j'en appelle à votre intelligence, je ne crois pas être ni la meilleure personne pour parler de Dostaler, ni la meilleure personne pour parler de l'histoire économique, mais bon... Il y a deux unis qui font en sorte que je suis ici quand même, mais je vais faire mon possible. C'est gentil. Mais en fait, en vrai, c'est que quand j'ai su que Robert serait là, je me suis dit, on ne t'a jamais présenté ensemble. J'évoquerai d'abord, donc ma présentation va être divisée en deux parties. J'évoquerai d'abord un phénomène qui m'apparaît finalement assez étrange, c'est ce que je soulignais dans mon article, soit le déclin de l'histoire économique au cours des deux ou trois dernières décennies. J'aborderai ensuite le problème d'une histoire économique critique, un aspect qui me permettra évidemment de souligner ce qui me semble être le cœur de l'œuvre de Staller. C'est inutile ici de s'attarder à prouver le déclin de l'histoire économique au Québec, comme partout en Occident d'ailleurs. Plusieurs historiens depuis au moins une vingtaine d'années, je pense à Paul-André Linteau, Gérard Bouchard, José Gartua, Joan Burgess et bien d'autres ont souligné ce déclin de l'histoire économique. Très récemment, l'année dernière, William Sewell a démontré ce même phénomène dans les départements d'histoire aux États-Unis. Il a fait vraiment un recensement d'à peu près tous les départements d'histoire et a montré à quel point l'histoire économique avait disparu un petit peu de l'écran radar de la discipline. Évidemment, cela ne veut pas dire que l'économie a complètement disparu des textes d'histoire, ce qui serait nettement exagéré. Puisqu'on est ici, je rends mes hommages au SIEC, qui est un des centres qui accorde évidemment beaucoup d'importance à l'économie. Les histoires régionales, et je pense à l'histoire régionale de la Mauricie, par exemple, ou celle de Québec, de Marc Vallière, accorde beaucoup d'importance à l'économie. Malgré cela, très peu de publications se réclament quand même, et je pense notamment aux historiens de ma génération, directement d'une histoire économique. De plus, je suis conscient que c'est très impressionniste ce que je vais dire, mais il me semble que lorsque l'économie est abordée, c'est souvent pour dépeindre un tableau contextuel qui n'a plus qu'un rôle très limité dans l'explication causale du changement historique. Tout se passe, et là je parle vraiment de la discipline historique, tout se passe comme si l'économie était considérée comme un secteur séparé de la société, un système autonome et cohérent, répondant à ses propres règles, et n'ayant finalement plus qu'un impact sur lui-même. Le corollaire de cela, et c'est encore une fois, je parle à l'intérieur de la discipline historique, est que le reste de la société, le politique, le social, la culture, les idées, finalement, tout cela peut être analysé de son côté, en toute autonomie à l'égard de l'économie. En somme, il me semble que l'économie est en voie de devenir quelque chose qui est pratiquement hors de propos pour l'analyse de la plupart des phénomènes sociaux, politiques, économiques, culturels, dans l'historiographie. Tout cela pour dire qu'il y a un parallèle, à mon sens, entre l'affirmation d'une part de l'autonomie du système économique régi par ses propres lois, lois qui sont habituellement assimilées au marché, et d'autre part, l'affirmation de l'autonomie des idées, de la culture, de la politique, du social, qui sont autant de manifestes là, qui ont été publiés au cours des deux dernières décennies. On peut penser que d'affirmer, par exemple, que les idées mènent le Québec permet de fonder une position forte sur le caractère non déterministe de l'économie, mais une telle affirmation, en plus, à mon sens, d'être naïve, concourt paradoxalement à valider la thèse d'un système économique autonome, détaché du monde politique, idéologique, culturel, etc., et donc régi par ses propres lois. À mon sens, le déclin de l'intérêt des historiens pour l'économie appauvrit à la fois le savoir historique et sa contribution à nos débats de société. Je crois en ce sens qu'il est absurde de penser que l'histoire, comme savoir, pourra se développer encore longtemps sans reprendre au sérieux le problème que pose l'économie dans les sociétés occidentales, et notamment le capitalisme, dans les sociétés contemporaines. Il y a par ailleurs quelque chose qui est pour le moins surréaliste, me semble-t-il, de voir s'accumuler les preuves de l'impact des impératifs de l'économie dans nos vies personnelles et collectives, alors que comme historien, nous avons à peu près relégué l'économie à un vague contexte plus ou moins pertinent pour l'analyse du changement historique. Deuxième partie de mon exposé, donc une histoire critique de l'économie. Tout cela pointe donc vers la nécessité de refaire de l'histoire économique, peu importe d'ailleurs ses inspirations théoriques. À cet égard, et même je ne suis pas spécialiste de la période, l'histoire économique de la première moitié du 19e siècle au Bas-Canada est l'exemple même d'un débat historiographique d'une grande profondeur qui a bénéficié de la part de plusieurs approches différentes de l'économie et de son impact important sur la société, que ce soit les rapports sociaux, la culture, la politique, les idées. Si je souhaite le retour de l'histoire économique en général et une plus grande attention à l'économie dans l'ensemble des études historiques, j'aimerais tout de même ici insister sur la pertinence d'un projet historiographique plus précis, soit celui d'un savoir critique sur la forme historique spécifique qu'a prise l'économie au cours des deux derniers siècles, en gros, là, soit le capitalisme. Ce savoir critique définit largement, et là je vais employer des gros mots qu'on n'utilise plus, mais qui me semble nécessaire pour identifier quand même des choses qui sont importantes dans la réalité. Un savoir critique donc qui serait centré sur les formes particulières que prennent les conflits, les luttes politiques, sociales, culturelles, dans une société qui tend à subordonner les grands pans de la vie collective aux exigences. Aux exigences de l'accumulation privée du capital. Donc, voilà, c'est dit. Et ce qui est d'ailleurs, par ailleurs, son corollaire, c'est-à-dire une pénétration considérable de la logique marchande dans les activités humaines. À l'heure où le sort de l'humanité est totalement confondu avec le sort de quelques grandes institutions financières, il me semble qu'une telle réflexion est pour le moins pertinente. C'est une réflexion qui se trouve, bien sûr, au cœur de l'offre de Destalaire. Bien sûr, et on me l'a rappelé récemment dans la REF, Marx est mort. Malheureusement, ceux qui ont fait et qui font une lecture intelligente de Marx et qui ont tenté, tentent toujours de s'en inspirer pour développer un programme de recherche critique, comme l'a fait d'ailleurs Gilles Destalaire pendant toute sa carrière, sont de plus en plus rares. Si bien qu'on a aujourd'hui une vision un peu, je dirais, caricaturale de cette pensée, de cette tradition de pensée critique, qui ne serait marqué que par une sorte de structuralisme instrumentalisant ou une sorte d'intolérance totalitaire. Comme je vais tenter de le montrer, Gilles Destalaire est l'exemple même d'un chercheur critique et humaniste qui n'avait pour objectif, me semble-t-il, que de penser les conditions de possibilité d'un approfondissement de la démocratie. En relisant quelques publications de Destalaire, et je suis un peu inquiet parce que je vois qu'on a consulté la même chose, le même livre. En relisant quelques publications de Stallaire, j'ai retrouvé un texte concernant la crise économique du début des années 80 au Québec. Une crise qui favorisera évidemment la montée du néolibéralisme et la montée du capitalisme financier qui nous cause tant de problèmes aujourd'hui. Pour mettre en lumière son argumentation à de Stallaire à propos de la crise économique du début des années 80, je vais la mettre en parallèle avec celle de Gilles Paquette et Hubert Wallot. Ce qui me semble intéressant, puisque ceux-ci ont joué un rôle très important, comme chacun sait, dans le développement de l'histoire économique au Québec. Ces derniers, dans un article du début des années 80 dans la RAF, où ils avaient fait une interview d'une cinquantaine de chercheurs pour essayer de montrer et essayer d'identifier les balises objectives du développement de la société économique québécoise depuis l'économie de comptoir de Nouvelle-France jusqu'à nos jours. S'inscrivant dans une perspective libérale, ce qu'ils appelaient, eux, une perspective entrepreneuriale, ils affirmaient clairement les leçons qu'il fallait tirer de la crise économique du début des années 80. Il faut savoir aussi que, surtout Paquet, je pense, était très, même s'il avait une vision néo-institutionnelle de l'économie, avait vraiment son cadre interprétatif était vraiment centré sur les lois de la socio-économie et de voir vraiment que c'était des lois qui avaient un pouvoir normatif sur la société. Et c'était très clair lorsqu'il est à la fin de son article qui partait de la socio-économie, l'économie de comptoir de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours, c'était très clair lorsqu'il analysait la crise économique du début des années 80. Et une petite citation. Le grand jeu, j'ouvre les parenthèses, le grand jeu québécois est en train de chercher ses règles nouvelles, lentement, car pour le moment, malgré le déclin de la productivité, la chute des investissements, le chômage élevé et l'inflation institutionnalisée, personne n'en est arrivé à croire qu'il faudra abandonner en fait certains de ses droits sociaux acquis dans l'après-guerre. Et donc voici un peu la façon dont Gilles Paquet et Wallot analysaient la crise du début des années 80 à partir donc de cette grande recherche. Qui cherchait à établir les grandes balises de l'histoire de la socio-économie depuis la Nouvelle-France. Je vais comparer maintenant avec le texte de Dostaler, qui était donc dans le livre que Robert vous a montré, qui s'inscrit clairement dans une perspective marxiste, mais qui ne débouche pas sur le même constat normatif visant à convaincre la population qu'elle devait abandonner ses droits sociaux pour se conformer aux nouvelles règles du jeu néolibéral. Même si Dostaler écrit sur des événements qui lui sont contemporains, il les envisage, comme il l'a déjà d'ailleurs toujours fait dans son œuvre, comme des processus historiques non déterminés. C'est d'ailleurs ce qui est frappant chez Dostaler, cette conscience de l'événement, même contemporain, comme événement historique. Et le titre de ma présentation, c'est Dostaler, historien du temps présent. D'abord, en bon économiste, et là je parle du texte de ce livre, Dostaler reconnaît bien sûr la structure particulière de l'économie québécoise, qui repose sur les secteurs économiques mous à faible investissement. Cela explique, selon lui, que la crise frappe plus fort au Québec qu'ailleurs au début des années 80. Malgré cela, ajoute-t-il, et je cite, « la crise n'est pas inéluctable et sa voie de sortie n'est pas prévisible. » Fin de la citation. Et cela s'explique, selon lui, parce que la crise, comme toutes les crises économiques, et je cite, « est un événement historique et non un processus mécanique, comme le croient souvent les économistes. » Et là, ça rejoint un peu ce que Martin disait tout à l'heure. En fait, cela correspond bien à ce que j'ai dit plus haut sur l'économie, et je cite encore une fois Dostaler, « ce n'est pas uniquement une crise économique, c'est une conjonction d'événements politiques, économiques, sociaux et idéologiques qu'il est artificiel de vouloir séparer et compartimenter, puisqu'ils participent d'un même mouvement historique. » Parmi cette conjonction d'événements qui caractérise la crise du début des années 80, Dostaler s'inquiète particulièrement de la montée d'un discours économique encore plus conservateur que celui qu'on entendait au début des années 30. Et d'ailleurs, dans l'œuvre de Dostaler, il y a toujours cette référence à la crise des années 30 qui est une clé majeure pour comprendre son travail. Ce discours n'est pas un simple pour Dostaler, ce discours n'est pas un simple reflet de la réalité matérielle, et là je rejoins un peu ce que Martin disait tout à l'heure, mais plutôt une stratégie politique, ce discours conservateur sur l'économie, donc du début des années 80, est une stratégie politique qui vise à, je cite, « forcer le consensus », fin de la citation, sur la voie particulière à suivre pour sortir de la crise des années 80. Ce discours s'appuie, et j'ouvre la citation, « sur une conception autoritaire de l'économie, de son enseignement, de son fonctionnement. Il s'agit d'imposer à la population les politiques découlant de la théorie pure, c'est-à-dire, c'est moi qui ajoute cette précision, une théorie pure détachée du mouvement historique. C'est cette conception autoritaire de l'économie, selon Dostaler, qui informe désormais l'ensemble des actions du Parti québécois au début des années 80, dont Dostaler dénonce le virage conservateur et néolibéral. Pourtant, affirme Dostaler, et encore une fois, c'est là qu'il me semble qu'on voit très bien l'historien du temps présent à l'œuvre, une autre sortie de crise est possible. Une sortie qui serait, j'ouvre les parenthèses, axée sur la satisfaction des besoins et des revendications du plus grand nombre. Fin de la citation. À court terme, et je cite encore une fois, cette sortie de crise implique qu'il faut d'abord se battre pour défendre les droits acquis et se battre contre la détérioration du pouvoir d'achat, car il est faux de prétendre que les hausses de salaire et la sécurité d'emploi sont la cause de la crise au Québec. Fin de la citation. À long terme, la sortie de crise est certainement plus difficile, comme l'évoque Dostaler dans son texte. Elle est néanmoins nécessaire pour éviter d'autres crises économiques à venir qui risquent d'être plus graves que celles des années 30. Cette tâche, à mon avis toujours actuelle à l'heure du gaz de schiste, du plan Nord et des indignés de Wall Street, il la présente ainsi, et je cite, « C'est une transformation de l'organisation sociale qu'il faut viser. Un certain nombre de décisions de nature économique doivent être prises dans toute société. Quoi produire, comment le produire, comment fixer et répartir le travail, comment contrôler les ressources naturelles. Ces choix sont actuellement le résultat de décisions privées prises en fonction des intérêts d'une minorité. » Ces décisions devraient être prises collectivement, selon des modalités à inventer, par la majorité de la population. Fin de la citation. Donc, encore une fois, cette préoccupation pourrait réfléchir aux conditions de possibilité d'un approfondissement de la démocratie. En conclusion, ainsi, parce que l'économie est partie intégrante de l'histoire, selon Dostaler, et pas un système régi par des lois immuables qui lui sont propres, une telle sortie de crise ne peut, et là je parle encore de la crise du début des années 80, et je cite, « passer que par l'action politique », fin de la citation, qui est ici la prise en main, pour Dostaler, la prise en main donc par les femmes et les hommes du changement historique. Voilà ce qui m'incite à penser, et je terminerai par là, que Gilles Dostaler doit être considéré non seulement comme un véritable, très grand, en fait, historien de la pensée économique, mais également comme un authentique historien du temps présent. Merci.
Bonjour tout le monde. Lorsque Martin Paquet m'a demandé de participer à cette table ronde, j'ai accepté avant de réaliser l'ampleur de la tâche qu'il me proposait. Malgré du fait que je suis à peu près de la même génération de Gilles Dostaler et que j'ai enseigné à l'UQAM pendant une décennie, moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Je ne pense pas que je l'ai même rencontré. Mais il était, comme Martin Petitclerc a dit, un personnage important dont tout le monde entendait parler pendant les années 80. Et un bon nombre d'entre nous ont lu un certain nombre de ses ouvrages de cette époque. Mais j'avoue que je ne réalisais pas l'ampleur de son ouvrage. Et c'est en tapant une bibliographie imposante depuis 2 mois que je me suis dit, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais suivre un conseil que je donne à mes étudiants. En histoire, c'est-à-dire que si vous écoutez un historien ou vous lisez un article qui n'est pas chronologique, watch out. Un historien devrait penser en termes chronologiques et ma communication va être en ordre chronologique à partir des travaux de Dostaler. Donc, je vous invite à visiter mon table de chevet depuis 2 mois. On va commencer avec on va commencer avec ses ouvrages publiés au début de sa carrière. Je l'ai commencé avec des choses sérieuses, réelles, la vie quotidienne des gens, avec une thèse de maîtrise à McGill qui portait sur le crédit et la consommation. Et là, par la suite, comme bon nombre de sa génération, il s'intéressait davantage à des questions que je dirais plutôt... plutôt théorique. Et pour le faire, comme plusieurs personnes de sa génération encore au Québec, il est allé en France, à Paris, pour étudier la théorie à la fontaine de la théorie à l'époque à Paris. Et on a. Merci. Et on a. Il a engagé dans un débat qui est vieux de plus de 100 ans sur l'importance de la théorie de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire la théorie de la valeur chez Marx, et est-ce qu'il a emprunté simplement les théories de la valeur de travail élaborées par David de Ricardo au début du 19e siècle et modifie légèrement ça pour ses fins en rédigeant Capital pendant les années 1860, ou est-ce qu'il a effectivement créé d'autres choses? Car il est facile à démontrer les faiblesses de la position de Ricardo, pour les marxistes, c'est important de dire, ce n'est pas tout à fait Ricardo, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a défendu. Et donc, Dostaler a publié, a fait une thèse, vous avez le titre, Valeur et prix, le débat sur la théorie de la valeur. Et là, par la suite, il a publié des livres portant là-dessus, Valeur et prix, histoire d'un débat, Marx, la valeur et l'économie politique. Donc, il a vulgarisé tout de suite ses acquis théoriques. Et là, par la suite, il a retourné au Québec, puis il est engagé d'une façon importante dans la vie politique de sa génération. Le point de vue défendu par Dostaler n'était pas le même que j'ai défendu à cette époque-là, mais on était tous les deux de la gauche. Et je dois respecter relisant ces textes de combat de cette époque, je reconnais l'importance de plusieurs des éléments de la démocratie et de l'éthique qui étaient soulignés par mes collègues, et c'est effectivement un aspect tout à fait important. Mais l'élément que j'aimerais soulever, et c'est pourquoi j'ai moi aussi le même texte que Martin Petitclerc a cité de Gilles Dostaler, ce texte, j'aimerais mettre ce texte dans un certain contexte. On est en crise, c'est certain, mais Dostaler organise un colloque pour voir qu'est-ce que ça veut dire cette crise économique et sa gestion. Et il a fait inviter des sommités de la gauche, de la France et des États-Unis. Paul Sweezy est venu à l'UQAM. Chris, hein? Faut le faire. Hein? C'est le fondateur de Monthly Review. C'est l'écrivain de Monopoly Capital. C'est l'économiste marxiste le plus important qui ait jamais produit les Amériques. Et puis il est venu à l'UQAM pour discuter de la nature de la crise au Québec. Parce que Dostaler avait organisé ce colloque dans un but d'avoir des syndicats, des chefs syndicaux et des militants et des gens de l'UQAM de discuter ensemble ces questions. Et je reviens à un autre élément que Martin a souligné. Et dans ce sens-là, les deux Martin ont souligné, parlant des régimes de temporalité, cette réunion-là était vraiment représentative de l'esprit de l'UQAM à l'époque. La réponse était une réponse de gauche face aux politiques du Parti québécois. C'était une réponse critique. Mais c'était, et ça, je pense que Gilles le relisait, c'est une de mes conclusions de relecture. Il relisait la faiblesse de la solution qu'il a proposée. La solution qu'il a proposée, je le lis, la crise est au Canada comme aux États-Unis, en France et ailleurs dans le monde, une crise structurelle du capitalisme. Cette crise est donc liée, entre autres, à l'état des luttes sociales au Canada et le caractère de la sortie de crise dépendra de l'évolution de ces luttes. Point. Ce n'est pas tout à fait une stratégie. Remarque bien, la stratégie que moi j'avais avancée, la lutte de classe, n'était pas une solution non plus. On n'avait pas de solution, nous autres, de la gauche. On était très conscients des problèmes. On était de plus en plus informés de la nature de ces problèmes et l'analyse de la spécificité de la crise dans cette même antique podostellaire, je trouve, toujours valable après quasiment 30 ans. Mais quoi faire, qui est la grande question de la gauche? On n'avait pas vraiment une solution à ça. Et on le voit dans les travaux de Dostala qu'il y a, qu'il suit, une certaine distance qui s'installe par rapport à l'engagement politique. Je dirais, dans ce sens-là, je ne suis pas de même avis qu'il y a une fidélité politique comme caractéristique, mais je suis complètement d'avis qu'il y a une fidélité éthique, un humanisme important qui est visible à travers l'ensemble de ces ouvrages, mais la solution politique qu'il prône va changer. Et pendant un certain temps, il sera à la recherche d'une solution de rechange à ses convictions marxistes, lambertinistes, à mon avis, de jeunesse. Oups. Le dernier travail, il commençait par un examen concrète de la situation crédit et consommation, un peu plus concret que ça. Et puis en 86, il examine avec collègues pour le fonds pour le gouvernement québécois le problème des normes de travail et leur application au Québec. C'est le dernier texte important concret qu'il fait. Donc, pour moi, c'est la fin d'une période d'engagement politique. Et le début d'une période de réflexion théorique et qu'il va l'amener assez loin de ses convictions initiales. Et j'aimerais souligner que ce changement suit les temps et fait partie intégrante. Non pas je suis, fait partie intégrante des changements des régimes de temporalité. La fin des années 80, c'est un, je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour le rappeler, mais la fin des années 80 n'était pas une période révolutionnaire. C'était une période plutôt conservateur, avec l'élection de Mulroney. Hein? Mulroney. Hein? Le Québec vote Mulroney. Hein? Quoi dire? Hein? Bon, ce n'est pas tout à fait une solution. Hein? Et hein? C'est vraiment pas la solution qu'on a prônée au début des années 80. Et puis... aux États-Unis, c'est le rechange. On a Reagan qui est remplacé par Bush numéro un. Bon. Alors, il n'y a pas de solution prévisible à côté gauche. Et puis, c'est une période qui est de plus en plus conservateur. Et les valeurs qu'il examinait au niveau théorique au début, dans son thèse de doctorat, revient à l'esprit comme une question importante. Car la raison pourquoi la droite est au pouvoir, c'est car la droite a apporté une solution à la crise de stagflation. Un coût de la vie élevé conjoint avec une situation de très faible croissance économique. Donc, stagnation et inflation qui fait stagflation. Et cette situation, ce concept est au centre de ses préoccupations théoriques pendant le reste de sa carrière. Comment montrer que cette prise de position intellectuelle a été erronée? Et pour le faire, il fallait revenir aux sources, revenir à l'école qui était rejetée, l'école de Keynes, voir les alternatives qui étaient proposées par d'autres, Galbraith et Meyerdahl, examiner en fond l'origine de la théorie qui est très liée à la question de la monnaie, de l'argent, et les politiques monétaires, et donc Hayek et Friedman.
Je ne dois jamais faire une communication qui utilise un autre ordinateur que la mienne. Ah bah.
Donc, il y a une période de 4 ou 5 ans de collaboration intensive avec plusieurs personnes. Des colloques organisés sur des penseurs importants et il conçoit, je crois, qu'il est pas seul en le faisant. Je veux dire, il fait des collaborations avec d'autres pour faire les colloques, mais il veut changer la nature du discours sur les questions économiques alentour de lui. Hein? Et donc, l'importance d'organiser des colloques, l'importance d'avoir ces colloques sous forme imprimée, avoir des collections de livres pour qu'on puisse utiliser ça dans les salles de classe, pour qu'on anime des discussions, pour qu'on puisse mieux comprendre la nature du problème à laquelle on fait face. Et donc, on a une série de communications individuelles, mais surtout pendant cette période des collaborations. Et ça finit par un ouvrage, à mon avis, unique. Qui est la pensée économique depuis Keynes et dictionnaire des principaux auteurs. C'est un bizarre de livre, il faut dire. Et la confection, je comprends pourquoi l'éditeur en anglais est un éditeur tout à fait mineur. Les maisons d'édition de premier ordre ne seraient pas intéressées par un tel type de manuscrit, je suis certain. On a une discussion de Keynes, qui est suivi par une série de à peu près une centaine de biographies des économistes, dont la plupart vous n'avez jamais entendu parler. Hein? Okay? Mais dans chacune de ces bios-là, il y a un élément, on peut penser que c'est matérialiste, moi je pense que c'est québécois. Lui, il pose, Gilles Dostelaire a toujours posé la question, qu'est-ce qu'il mange en hiver? Hein? Et il répond toujours, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie, cette personne-là? Et il perd jamais cet aspect concret de l'auteur. Cette collaboration avec Michel Béot est vraiment un ouvrage majeur qui devrait être à côté sur les tablettes de tous les enseignants qui sont intéressés par le 20e siècle. Car on comprend nettement mieux les idées lorsqu'on peut savoir qui a développé ces idées. Et c'était ça le but principal. Là, on embarque dans une comparaison qui va concentrer sur la question de Hayek, sur la question de Friedman, sur la question de néolibéralisme. Il sent vraiment qu'il a une compréhension adéquate des origines des idées. Et là, il lance vraiment dans une comparaison de plus en plus serrée entre les principes de néolibéralisme et une critique serrée de néolibéralisme et qu'est-ce qui est, par la fin des années 90, la solution pour lui. Hein? La solution par la fin des années 90, la solution pour lui, c'est effectivement les options prônées par Keynes. On ne changera pas le capitalisme. On peut le gérer, par exemple, mais on ne changera pas sa nature même. Ce n'est plus à la lutte sociale pour transformer la crise structurelle du capitalisme. Là, ça, on laisse ça de côté. Ça, ce n'est plus réalisable. Qu'est-ce qui est réalisable? C'est un engagement social et politique et éthique qui explique l'importance pour tout le monde du rôle de l'État et qui défend le rôle de l'État pour contrer les tendances dangereuses du capitalisme. Ces travaux des années 90 préparent les ouvrages majeurs de la dernière décennie de sa vie. Je souligne que j'ai ici la première tête que vous avez, c'est le seul changement en ordre chronologique que j'ai effectué dans toute la présentation. Sur la dernière page, vous avez eu une publication, un livre qui est sorti en 2001. Et cette page commence par un article publié en 2000 qui est la première ébauche du capitalisme et puissant de mort qui sera le dernier grand ouvrage de Dostelaer. Donc j'ai changé de nom l'ordre chronologique. Et c'est le seul qui était nécessaire à faire pour avoir une compréhension temporelle de l'évolution de sa pensée dans le temps. Je trouve ça très significatif, révélatrice de l'importance et cohérence de l'évolution de sa pensée. Okay. On a au cœur de ces ouvrages, on a Keynes et ses combats. C'est un livre remarquable, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Pour n'importe qui s'intéresse à l'histoire des idées au XXe siècle. Il y a deux entreludes, c'est l'expression qu'utilise Paul Lemieux, deux entreludes dans cette analyse. Une entrelude qui examine la nature de la vie sociale de Bloomsbury Group, un groupe de petits bourgeois intellectuels aliénés comme Gilles Dostelaer et moi, pour parler des grands mots des années 80. C'est comme ça qu'on s'appelait là, à cette époque-là. Je sais que c'est comme l'accumulation du capital, c'est des grands mots qu'on n'utilise plus, là, mais c'est parce que l'esprit représentatif de l'UQAM a eu des changements, sans doute. Mais c'est un groupe de petits bourgeois intellectuels aliénés à Londres, avant la Première Guerre mondiale, qui ont eu un impact extrêmement important pendant les années et la liberté sur le plan sexuel et sur le plan émotif et artistique de ce groupe a clairement fasciné Dostelaer. On peut être humain dans plein sens du terme malgré le chaos de Première Guerre mondiale qui les entoure. Et c'est un élément, je pense, un élément d'espoir à laquelle il se tenait vaillamment. Jusqu'à le milieu des années, de la décennie dernière. Le deuxième interlude marque vraiment, à mon avis, la distance politique qui a fait depuis sa jeunesse. On a une entelude qui explique l'histoire politique de Grande-Bretagne pour les gens qui ne sont pas qui connaissent pas l'histoire britannique, pour les mieux situer l'intervention personnelle de Keynes dans cette histoire-là. C'est une histoire politique qui sera fera le plaisir d'Eric Bedard. C'est Disraeli, c'est les chefs politiques, c'est les élections. On ne parle jamais des grèves. On passe quasiment en silence de la Première Guerre mondiale. La grève générale de 26 n'est pas mentionnée du tout. Donc, c'est vraiment, on est loin, mais bien loin de toute historiographie marxiste pour comprendre l'évolution de la première pays capitaliste au monde. Hein? Et on s'attarde à mieux comprendre, et de parler plus clairement, c'est suffisant, cette histoire politique est suffisant pour comprendre l'évolution de la, les influences les plus importantes auteurs économiques et penseurs économiques du XXe siècle. Par la suite, il fait la préface, très bonne préface d'ailleurs, d'une collection de 6 livres par Galbraith, le penseur indépendant le plus hétérodoxe américain du mainstream américain. Alors, Galbraith est au centre. Qu'est-ce que Sweezy était au début de sa carrière? C'était l'économiste le plus important aux États-Unis qui a eu les idées les plus originales, mais vraiment du centre. Et c'est là que Dostler est rendu, mais il y a un problème réel qui est de plus en plus évident, et ce problème réel, c'est pas juste sur le plan éthique, c'est le problème réel, c'est sur le plan de la destruction de la planète. Hein? Et déjà au début de la décennie, dans l'article qui est paru dans le livre What is Money, Dr. Freud et Mr. Keynes on Money and Capitalism, Bernard Marie et G. Dostler avaient proposé les idées importantes qui seront au cœur du capitalisme et pulsion de mort. Et ça, on ne peut pas lire ce livre-là sans entendre le cri de désespoir qui résonne quasiment sur chaque page. On est foutu. C'est triste, mais on est foutu. Donc, on a parti d'une volonté de transformation du monde. Réaliser que non, on n'avait pas la bonne route, on n'a pas trouvé la bonne route. On avait l'ouverture d'esprit suffisante pour examiner une variété de différents penseurs et de contribuer d'une façon très importante à la compréhension de ces penseurs. Mais le résultat n'est pas une route qu'on peut suivre. Le résultat, c'est une réalisation que la situation à laquelle on fait face est une situation probablement terminale. Comme espèce, on aurait une courte avenir. À mon avis, l'évolution des pensées de G. Dostler est vraiment représentative de l'évolution l'esprit de l'UQAM et dans un certain sens de sa génération d'intellectuels. Il y a très peu de gens de ma génération avec lesquels je peux jaser sur le plan politique. On est sur les doigts d'un mec, des gens avec lesquels j'ai milité à l'époque qui militent toujours. Et c'est pas parce que je suis, je veux pas dire que les autres n'ont pas raison et moi j'ai raison, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que il y a des choix qu'on fait dans la vie, c'est un choix d'un esprit critique et actif. La façon que je lis l'ensemble de l'ouvrage d'Ostler, c'est que l'économiste, tout comme l'historien, est dans l'histoire. Je vous remercie.
Merci, Robert. Il nous reste environ au moins une bonne demi-heure de discussion, donc tout de suite, je vais demander la parole. Je laisse la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Monsieur, est-ce que vous pouvez vous nommer aussi, s'il vous plaît?
Oui. Oui, Frédéric Farid Borel, UQTR. J'ai une question, bon, deux petites questions, M. Sweeney. Je voulais savoir, quelle était l'analyse de Dostaler concernant la mondialisation économique? Puis tantôt, vous avez fait référence en disant que le capitalisme était triomphant. Est-ce que ça venait pas aussi du fait que, ben, je voulais savoir en quelle année il était arrivé à ce constat? Puis aussi, est-ce que c'était pas le fait de voir le bloc soviétique s'effondrer qui a permis cette analyse? Mais ce serait peut-être une petite...
OK, ben, je vais commencer par la deuxième parce que c'est beaucoup plus important. Parce que ça indique que je me suis mal exprimé si j'ai dit que le capitalisme était triomphant. Lui était venu à la conclusion... Je ne sais pas si vous avez lu le manifeste de Marx, le manifeste communiste de Marx et Engels, mais dans ça, Marx dit soit on va avoir une révolution, soit on va avoir... La lutte de classe mène soit à une révolution, soit l'anéantissement des deux classes. Qui entrent en conflit. Donc, pour reprendre l'expression de fin du 19e siècle, c'est le socialisme ou la barbarie, et c'est la barbarie qui l'emporte. Et donc, ce n'est pas qu'il considère que le capitalisme est triomphal, c'est que le capitalisme nous mène vers la destruction totale. Et on n'a pas, il n'y a aucun indice qu'on va réussir à arrêter cette vision apocalyptique qui semblait psychologique et enracinée, encouragée par la nature de mode de production, certains, mais aussi répondre à des profils psychologiques très profonds. Okay? Pour lui, la globalisation n'est pas un phénomène neuf, car il a commencé comme marxiste. Or, pour Marx, la création d'un marché global est un phénomène fondamental pour comprendre la nature du capitalisme. Or, lui, c'est les gens de centre qui découvrent qu'il y a globalisation. Lui, déjà dans les années 80, début des années 80, fin des années 70, dans ses ouvrages, il parle de la division internationale du travail, de l'exportation du capital, il tisse tous les rapports. Lorsqu'il fait l'analyse de la situation de la crise au Québec, il fait le pont avec le Canada, les États-Unis, mais aussi le reste de l'économie du monde. Fait que la vision mondiale de la nature du capitalisme est présente dès les débuts. C'est vrai que par la suite, il va utiliser les expressions mainstream de globalisation, mais il était comme la plupart des gens, comme tous les marxistes que je connais, était déjà là. C'est un enseignement découvert par le centre, par les économistes bourgeois, pour parler. C'est pas des gros mots, c'est des mots à naître. L'économie bourgeoise découvre la globalisation, mais bien un siècle après Marx.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timides.
Question, justement, quand tu parles de la première partie de Dostaler, justement, en disant qu'il n'y a pas de finalité politique. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que, déjà, quand on parle de pensée critique, une pensée critique se fonde essentiellement sur une conception du soi et du monde en tant que tel. Donc, justement, à l'époque, justement, de la crise économique et sa gestion, il y a une conception du monde qui est présente. Ça ne veut pas dire qu'il donne une solution à cela. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, ce qui est remarquable dans la pensée de Dostaler, c'est ce refus. C'est une forme de déterminisme qui est très présente. Peut-être un peu moins avec des capitalistes et les pulsions de mort, mais quand même. Qu'est-ce que tu entends par « il n'y a pas de finalité politique » Est-ce que c'est le refus, je dirais, d'une... une finalité partisane ou d'une finalité en termes de programmation politique? Ou c'est un refus du politique?
Je sais que c'est une drôle de mise. en ordre, mais je ne pense pas que j'ai utilisé l'expression finalité politique. C'est plutôt le langage qu'utilisent les gens à Laval qu'à Memorial. Mais tout de même, je comprends la question. Et donc, je vais essayer de répondre. C'est effectivement la question de stratégie. Où est-ce qu'on s'en va? Depuis le défait de la première tentative d'une révolution ouvrie à Paris en 1870-71, pour la gauche au monde, la question, c'est quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait pour changer qualitativement la situation? Au Québec des années 80, il y avait, pendant les années 70, il y avait un débat actif qui s'opposait à diverses tendances politiques, maoïstes, trotskistes, socialisme démocratique de gauche, et une certaine présence, mais pas une présence certaine, d'anarchistes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais la réponse était d'habitude en termes assez court terme. Il ne veut pas de stratégie à long terme pour la tendance politique que d'Osterler, avec laquelle il était le plus proche. Eux autres, c'était la reconstitution d'une quatrième internationale. C'est ça la finalité politique à moyen terme pour la lutte pour les maoïstes, c'était la construction d'un parti prolétaire. C'est la création d'un organe. Donc on était dans un sens, tous les deux étaient dans un héritage, toujours héritier du quoi faire de Lénine. Début du 20e siècle, où il dit que c'est l'organisation politique qui impose fait la propagande par un journal, l'Iskra, et l'organisation politique. On était loin, tous les deux tendances, on était loin de Rosa Luxembourg. Et on était loin des idées avancées dans les années 20. Par Maria Tegua au Pérou et d'autres esprits beaucoup plus créatifs sur le plan théorique marxiste. On était vraiment dans les deux tendances étaient dans un moule assez contraignant. Et il n'y avait pas de possibilité réelle de mobiliser les gens parce qu'on ne pouvait pas les dire qu'est-ce qui était pour gagner avec continuer les luttes sociales. Bon, faites des comptoirs alimentaires de lutte de classe. Bon, ça veut dire quoi, ça, pour le monde? Pas grand-chose.
Merci, M. Johan Daigle. Alors, je ne connais plus le sujet, mais d'abord, je voudrais vous féliciter de chacune des trois présentations qui étaient totalement fascinantes, et puis la synergie aussi tout à fait réussie entre ces trois présentations-là. Qui sont extrêmement importantes. Alors, j'ai une petite question qui s'adresse aux trois, en fait. Parmi les gros mots, il y en a un qui n'a pas du tout été prononcé, celui de déterminisme ou de détermination en dernière instance, en fait. Mais tous les trois, vous avez souligné l'importance du contexte historique ou de l'historicité des questions économiques. Je pense que ça traverse vos trois présentation de façon tout à fait importante, que ce soit de ne pas considérer à travers l'œuvre de Dostaler que l'économie tient à une mécanique. J'aimerais quand même vous entendre chacun sur l'importance, en fait, de l'économie dans les situations du système économique capitaliste, mais des crises, justement. Vous l'avez fait à travers la pensée de Gilles Dostaler et souligné la question centrale posée notamment encore par Lénine, que faire? Mais que pensez-vous de la détermination de cette vision économique des choses dans le contexte historique actuel?
Ben, c'est une très bonne question. puisque j'ai dit que je n'étais pas la meilleure personne à parler d'histoire économique, je vais passer la parole. je pense que ce que Robert dit est très évident. C'est très évident que la gauche est en pleine décomposition depuis un bon bout de temps. C'est évident. Je veux dire. C'est sûr que je dirais que cette réflexion-là sur le déterminisme économique est très difficile à répondre. Je veux dire, c'est sûr et si je parle des débats à l'intérieur de la discipline historique, on a, je dirais, à la limite, exagéré un certain déterminisme économique pour essayer de revaloriser certains champs à l'intérieur de la discipline. Les manifestes sur l'histoire de la culture ont dit on rejette le déterminisme économique de tous les historiens économiques qui ont fait de l'économie dans les années 70-80. Ceux qui vont faire l'histoire des idées vont dire on rejette le déterminisme économique. Mais en fait, quand on relit ces historiens-là, et d'une part des historiens marxistes, structuralistes, vraiment déterministes, il n'y en a pas eu tant que ça. On voit très bien que finalement, oui, une place centrale est accordée à l'économie, et oui, l'économie a un impact sur la société, mais en même temps, comme chez Jules de Staller, il me semble, qu'on voit comment on voit, c'est pas toujours évident, il va parler de conjonction d'événements, de l'économique, du politique, et il n'y a pas une conception très claire de voici c'est l'économie, ensuite c'est le politique, ensuite c'est de la cave au grenier des historiens des annales ou quoi que ce soit. Donc il y a une volonté d'essayer de saisir un moment historique où, par définition, il y a certaines périodes, certains espaces où l'articulation de l'économie et du politique c'est pas la même. Et donc, il y a une flexibilité là qui peut paraître comme une... et qui a souvent paru, je pense, et c'était peut-être une critique exagérée à mon sens, mais c'était vu comme une faiblesse théorique. Et en fait, c'est plutôt une prise de... ça me semble être plutôt une prise de conscience de la complexité du moment historique et du mouvement historique. Et en ce sens-là, il n'y a pas de réponse je ne peux pas répondre à la question de dire dorénavant, vous faites de l'histoire, vous allez prendre l'économie en premier, c'est vraiment l'économie qui est déterminante. On ne peut pas vraiment répondre à ça. En même temps, ce que j'ai essayé de soulever un petit peu chez de Staller, et ce qui me semble important dans une sorte de dans une tradition de pensée critique qui a lu Marx d'une façon peut-être un peu moins dure que certains l'ont lu, il y a toujours ce double aspect, hein, c'est l'aspect d'une économie qui a un impact sur la société, mais en même temps il y a toujours les luttes qui sont associées à cette économie-là. Et dans le fond, chez Marx, il y a toujours cette volonté d'articuler cette sorte de continuité ou cette sorte de système économique très, très dur qui est contraignant. Hein. Je veux dire, c'est évident, on regarde la société aujourd'hui, c'est évident que l'économie est contraignante. Mais en même temps, il y a toujours dans cette tradition de pensée-là l'idée que cette structure économique a en elle-même les conditions de sa propre destruction, de sa propre modification, de sa propre contestation. Et donc, il y a là, dans cette historiographie, dans cette tradition de pensée-là, il y a cette idée du conflit qui reconnaît à la fois la force d'un système économique, mais qui en même temps reconnaît de nombreuses prises pour sa contestation. Et dans le fond, c'est un peu toute la logique de la dialectique et tout ça. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas répondre, je pense, d'une façon claire. J'ai essayé de le faire le plus clair que je pouvais, là, mais c'est ça.
À mon avis, la réalisation la plus importante de la bourgeoisie, dans l'histoire de la bourgeoisie, c'est de convaincre la plupart du monde au monde, ou essayer de convaincre la plupart des intellectuels au monde, et choses qu'ils ont réussi à faire, que l'économie est séparée de l'éthique sociale, politique, culturelle et religieuse, spirituelle et religieuse. C'est le seul mode mode d'organisation sociale, le capitalisme, où, dans l'histoire de l'humanité, où cette idée est crue par un nombre important d'intellectuels, et que des politiques sont formées en fonction de cette illusion. Moi, je suis toujours marxiste, alors je fonctionne toujours avec la trilogie de « il y a des rapports de production, il y a des rapports de reproduction, puis il y a des rapports de notre espèce avec le reste de la nature ». Ce sont les trois rapports qu'on trouve au début de la première articulation de matérialisme historique par Marx dans l'idéologie allemande. Et D'Osteller, à la fin de sa vie, a souligné l'importance pour nous tous de la croyance à cette inévitabilité d'un déterminisme économique nous a conduit à une rupture sur le plan de notre rapport avec la nature qui va finir par nous tuer. Cette pulsation de mort est ça. En anglais, c'est plus erré que pulsion. En pulsion, c'est un pfff. En anglais, le terme pour ce concept de Freud, c'est death wish. C'est notre volonté de se mourir. C'est pas juste qu'on est poussé vers quelque chose, c'est une pulsion. Mais, bon, donc le déterminisme économique dans ce contexte-là est un mythe extrêmement important pour les bourgeois, l'économiste bourgeois, pour justifier la mainmise sur les politiques sociales et politiques et culturelles de nos sociétés. Et il faut, à mon avis, le critiquer à n'importe quoi. Lorsque l'opportunité arrive, parce que si on ne défait pas cette conceptualisation, on ne retrouve pas notre humanité. Et si on ne trouve pas notre humanité, on ne peut pas sauver notre espèce. Avec ça, je suis d'accord avec D'Osteller, je ne suis pas encore rendu à son désespoir, mais il était 6 ans plus vieux que moi.
Peut-être ajouter dans ce cas-là, évidemment, je suis bien d'accord avec les analyses qui ont été présentées, mais quelque chose qui est remarquable dans l'œuvre de D'Osteller, je souligne, c'est sa cohérence. Sa cohérence, entre autres, sur le domaine de la pensée critique. Tantôt, Robert a bien souligné, justement, l'espèce de passage qui se fait à la fin des années 1980. Qui est présent, mais il faut bien, bon, ici, je dois faire une analyse un peu gramscienne là-dessus. Il y a une hégémonie qui est présente dans l'espace public à ce moment-là, qui est particulièrement grande, en disant que c'est, rappelez-vous, du point de vue de l'économie politique, c'est, par exemple, des fameux prix de la Banque de Suède, c'est Gary Becker en 92 sur la théorie économique de la mort, la théorie économique de l'amour, la théorie économique du mariage, ainsi de suite. Donc, les relations humaines sont ramenées à une rationalité instrumentale ici. Je pense par exemple rien qu'en philosophie politique, en 1989, c'est Fukuyama. Fukuyama avec la fin de l'histoire et l'avènement du dernier homme. Donc, on clôt la spirale hegelienne, justement, du temps, puis en disant que nous sommes maintenant rendus à la liberté 55. Là. Donc, tout va bien, cet élément-là. Donc, ce qui est formidable à ce moment-là, c'est qu'il faut être capable de travailler justement les sous-bassements du discours hégémonique qui est présent. C'est ce qu'on voit avec D'Osteller. Pourquoi s'intéresse-t-il aux économistes à ce moment-là? Pourquoi s'intéresse-t-il justement à Hayek, à Keynes, ou à tous ces économistes, à Menard, par exemple? C'est de voir comment le discours économique dominant, hégémonique dans une société, qui place comme étant quelque chose d'une espèce de prison du discours, une espèce et ça, c'est la force du déterminisme en tant que tel, justement, dire que veut pas, ça passe comme ça. Ce sont des lois, à la manière que les lois qui régissent ce comportement humain sont similaires aux lois de la physique à cet effet. Et justement, lorsqu'on fait une histoire de la pensée, c'est l'exercice d'une pensée critique ici. Parce qu'on est capable de montrer les sous-bassements, les fondements qui sont reliés en grande partie aux dimensions personnelles, à tous ces contextes d'énonciation qu'on parlait tout à l'heure ici. Donc, c'est une œuvre qui est profondément, justement, intéressante pour un historien, parce qu'elle permet de voir que les structures de la domination qui sont présentes sont des structures qui sont socialement, historiquement construites. Elles peuvent apparaître, mais elles peuvent aussi disparaître. Mais là, le mot important là-dedans, c'est « peu ». Et c'est ça qui est important.
Oui, si je peux juste ajouter une petite chose, je m'excuse. Ça, c'est aussi peut-être de reprendre également l'ouvrage, le dernier ouvrage de Dostoïevski, de Maris, donc « Capitalisme et pulsion de mort ». C'est quand même intéressant de voir qu'il a choisi le Freud du lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire celui justement qui va être intéressé par la pulsion de mort, beaucoup plus que par la libido sexuelle et ainsi de suite. Parce que là, on est aussi au lendemain justement d'un événement absolument épouvantable, 14-18, et puis là, il y avait quelque chose de profondément inédit à ce moment-là par rapport à l'ampleur du désastre humain qui s'était produit, mais surtout un désastre humain qui n'était pas inévitable. Il y a eu des choix qui ont été faits, puis il y a des conséquences à ces choix-là. Aujourd'hui, la crise actuelle du capitalisme, parce que c'en est une qui est extrêmement grave, il y a également eu des choix. Et en choisissant ici Keynes et en confrontant avec Freud, c'est ce qu'il a fait, il va aller chercher aussi cette idée que l'accumulation actuelle du capital diffère de ce qui a pu se produire auparavant, en ce sens qu'auparavant, on pouvait accumuler du capital à des fins productives, pour la construction d'infrastructures, pour une épargne qui va relancer l'emploi, et ainsi de suite. Mais là, depuis quelques décennies, et avec le néolibéralisme, nous avons une accumulation extraordinaire de capital qui, en fait, devient son propre produit, un produit, le produit financier, si on peut dire. Et là, pour Dostoler, ce type de réaction intéresse beaucoup plus la psychanalyse que l'économie en tant que telle. Et c'est là qu'effectivement, il va se lancer dans une analyse absolument mordante, si je peux dire, du comportement des capitalistes actuels. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas un déterminisme en tant que tel à long terme d'une machine qui fonctionne par elle-même. D'ailleurs, Dostoïevski s'est battu toute sa vie. C'est quasiment une constante de sa pensée que de se révolter contre ce type de déterminisme. Mais c'est certain qu'à un moment donné, il y a des choix qui sont faits et il y a des conséquences. Et là, pour lui, mais oui, là, nous, s'il s'inspire si fortement de Freud, c'est que, bon, pour lui, nous sommes devant un désastre. Et on y fonce. Monsieur, pardon.
Merci beaucoup. Il y a Julien Prudhomme, UQAM. Il y a des conférenciers qui ont suggéré qu'on pouvait situer l'œuvre de Dostoler dans celle de la sociologie critique qui se fait en général et celle qui se fait à l'UQAM en particulier. Et je serais simplement curieux de vous entendre le faire en comparant peut-être l'œuvre de Dostoler avec celle d'autres praticiens de la sociologie critique, comme bon, Freytag est décédé, mais disons des gens comme Gilles Bourque ou Éric Pinault, par exemple, qui eux ne sont pas décédés, avec qui les historiens peuvent dialoguer s'ils le veulent.
Lucam, on donne la parole à Lucam.
Pinot en plus. Non, c'est un bon ami. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, c'est très difficile. C'est très difficile. Je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que la pensée critique, comme la gauche, et la pensée critique est de gauche, est une pensée qui est très, très éclatée. C'est le moins qu'on puisse dire. Freytag est peut-être le dernier qui représente cet effort qui a échoué d'essayer de reformuler une pensée critique qui arriverait à faire un certain consensus. Et on le voit très bien à l'UQAM, par exemple, Pinault n'est pas du tout frétagien, tu vois. Et même au département de sociaux de l'UQAM, finalement, même si Freytag était vraiment une figure intellectuelle dominante, on voit très bien qu'il n'a pas réussi à fédérer la pensée critique. Et donc, tout le monde le fait un petit peu de son propre point de vue, avec ses propres préoccupations. Certains vont s'appuyer sur Freud, d'autres sur le Marx de la jeunesse, l'autre le Marx de la maturité, l'autre sur... Donc, c'est très difficile. C'est très difficile de répondre à ta question parce que, à la limite, et ça représente un peu aussi ce qui est ce qu'on voit dans les mouvements sociaux actuellement. C'est vraiment un éclatement où on a, je dirais, quelque chose de très enthousiasmant dans la mesure où il y a une même position forte sur position critique forte, mais en même temps, on le voit très bien, la cohérence de tout ça est dure à faire, t'sais, est vraiment dure à faire. On n'arrivera pas à s'entendre sur le déterminisme économique et on n'arrivera pas à s'entendre sur les formes d'institutionnalisation, par exemple, qui préoccupaient beaucoup Freytag et tout ça. Donc, c'est ce qui est d'ailleurs assez intéressant, et là, sans même m'en cacher, je dévie de ta question. Mais pendant la grève à l'UQAM en 2009, la grève des professeurs, Freytag a fait une présentation là, qui était vraiment, ça doit être une de ses dernières présentations publiques, où il parlait de sa conception de l'université, où il rappelait les racines d'une université qui était consacrée à un savoir pur, pas du tout instrumentalisé, pas du tout corrompu, et qu'à partir de là, c'était une sorte de passé, en tout cas moi personnellement, que je trouve un peu mythique, là, je sais pas où cette université-là existait, puis qu'à partir de là, ben, cette université-là avait été dans un déclin total jusqu'à aujourd'hui. Là. Et on l'a vu très bien, on était, bon, tous des profs de l'UQAM, grévistes, il y avait un capital de savoir critique qui était ramassé, et je veux dire, la plupart, je dirais que la moitié était d'accord avec Freytag et l'autre moitié ne l'était pas. Et ceux qui étaient d'accord avec Freytag ne l'étaient pas pour la même raison. Et ceux qui ne l'étaient pas, ne l'étaient pas pour la même raison non plus. Donc, c'est très difficile de penser. Puis d'ailleurs, il y a un livre qui a été publié par Lux là, il y a une année ou deux là, sur la pensée critique. Et c'est une succession d'auteurs dans des chapitres séparés. Et tu sais, qui passe de Tony Negri à Jacques Rancière, mais c'est une succession de penseurs critiques, et on voit très bien que l'arrimage est très difficile, et en fait, ils discutent presque même pas entre eux. Donc, c'est pas différent, je pense, au département de sociaux de l'UQAM.
Je ne ferai pas de commentaires sur le département de sociologie à l'UQAM, mais juste pour les plus jeunes ici présents, lorsqu'on était à l'UQAM, tous les deux, Dostoller et moi, pendant les années 80, la mission de l'UQAM, était de la démocratisation de l'éducation de post-secondaire. C'était ça la mission centrale de l'institution. Tout le monde s'entendait là-dessus. Bon, je demande à n'importe quel étudiant qui est à l'UQAM à l'heure actuelle, est-ce que c'est la mission de l'université à laquelle vous allez? Et puis, je pense que vous aurez une réponse très claire de changement social majeur qui s'opère, et les sociologues sont dans l'histoire aussi.
Et moi, évidemment, n'étant pas à l'UQAM... Donc, j'ai un regard plus extérieur et peut-être moins formé, effectivement. Je dirais aussi, ça correspond peut-être aussi à il y avait une volonté institutionnelle, lorsque l'UQAM est apparu, qui a été très présente parmi, le signe mes deux collègues ici, et qui était très présente justement dans la conception de l'éducation, puis une conception de l'éducation parle de la connaissance qui libère en tant que telle. Donc, comment pouvait-on fonctionner dans ces conditions-là? Il y avait une dimension aussi qui était relative à la pensée critique, c'est-à-dire de fournir des outils analytiques qui permettaient, sans doute, grâce à leur emploi, de comprendre une situation donnée et de pouvoir en saisir les tenants et les aboutissants, éventuellement, comme individu, de faire quelque chose par la suite. Il y a aussi une dimension qui était très systémique aussi. On parlait de Michel Freytag. Michel Freytag, quand on lit son naufrage de l'université, c'est franchement déprimant. On c'est la fin du monde qui arrive bientôt, puis I feel fine, comme la chanson de R.E.M. là. Donc, ce qu'on voit désormais, mais ça c'est une tendance générale qu'on voit dans les universités, c'est que chaque université avait une étiquette particulière, une façon de fonctionner particulière, mais qui est de plus en plus soumise à cette forme de rationalité instrumentale et de rationalité productiviste qui est présente. Donc, bon, regardez, depuis 1998, avec les contrats de performance, les universités qui avaient même, par exemple, une vocation humaniste, une vocation plus critique, ainsi de suite, se désengagent de plus en plus de leur vocation originelle et mettent beaucoup plus l'accent sur les aspects beaucoup plus pratiques du terrain. D'ailleurs, on voit d'ailleurs, rien qu'en termes de financement de la recherche, le déclin justement de certaines dimensions qui étaient beaucoup plus critiques ou encore beaucoup plus humanistes à l'avantage de la dimension très technicienne ici. Et je pense que il aurait été intéressant, justement, d'entendre l'aide d'Ostalaire là-dessus. C'est-à-dire de voir comment cette dimension très, ces impacts très, cette lecture très économiste, économiste au sens de science, ici, en sens même pas de science, mais en termes de technique, de techniques en tant que telle, qui présente, comment celle-ci affecte-t-elle notre rapport au savoir? Et c'est une des choses que j'avais remarqué en lisant lui, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est que, par exemple, quand il parlait d'économie, il ne parlait pas de sciences économiques. Donc, déjà là, c'est une autre dimension. Il parlait d'une discipline. Une discipline, ben, il y a une forme d'art là-dedans. Il y a une forme d'indéterminé là-dedans. Ce n'est pas seulement qu'une série de procédures techniques qui encadrent l'esprit. C'est une façon de voir le monde, d'agir avec le monde. Puis c'est un monde, en plus de ça, dans le cadre de l'économie, qui est divisé selon différents paradigmes. Le paradigme classique, le paradigme marxiste, ainsi de suite. Et le dialogue, justement, avec, parlant entre autres de la sociologie, il faut donc s'entendre sur des concepts. Est-ce qu'on s'entend sur une dimension scientifique, cette organisation du savoir, ou on s'entend sur une conception disciplinaire? Et même, dans certains cas, on parle même de transmulti et interdisciplinarité. Donc, il y a toute une réflexion sur cette organisation du savoir en tant que telle. Et à quelle fin fait ce savoir et s'est orienté? Et quelles sont ses fins? Bien là, ça revient justement à ses finalités éthiques et politiques.
Bien. Écoutez, il est déjà 15h03. Je crois que comme la séance suivante commence dans une dizaine de minutes, donc nous allons arrêter le dialogue ici, malheureusement. Mais je vous remercie tous et toutes, et j'espère que cette table ronde vous aura intéressé. Merci beaucoup.